Chers amis, bonjour. Je suis avec Monsieur Alexis Leopoldov, le chef de la groupe musical Nastroïka.
Si vous en permettez d'abord, est-ce que je peux vous poser la question, qu'est-ce que c'est pour vous la musique?
La musique, pour moi, c'est tout un univers qui m'a accompagné tout le long de ma vie et qui m'accompagne encore. J'ai commencé à l'âge de 7 ans parce que mes parents voulaient que je fasse du piano. J'ai eu des cours de solfège, des cours de piano, et tout ce qu'on a réussi à faire avec ce piano, c'est à me dégoûter du piano. Je n'avais plus du tout envie de faire du piano. Alors, une année et demie plus tard, avec mon ami d'enfance, on a entendu un joueur d'harmonica, Larry Adler, qui était un virtuose d'harmonica américain, Et ça nous a complètement bluffé les deux, donc avec mon ami, et on s'est acheté des harmonicas, et avec ça on a commencé à jouer de l'harmonica pendant pas mal d'années. Donc j'ai découvert en fait le monde de la musique et le monde de la variété, le monde du classique un peu plus tard, mais le monde de la musique, de la variété, avec l'harmonica au départ.
Jouer
de l'harmonica pendant un nombre d'années jusqu'à ce que je fasse connaissance avec un quintet d'harmonicistes dont l'un des harmonicistes était vraiment un surdoué de l'harmonica. Il jouait mieux qu'Albert Reisner.
Non,
c'est vrai. Il jouait mieux qu'Albert Reisner. Au cours d'un crochet radio de jeunes talents, Albert Reisner l'a fait arrêter au milieu d'un morceau parce que il se sentait complètement diminué. Voilà. Hein, c'était, je peux l'appeler, je peux le citer, c'était Bernard Dubos, et c'est quelqu'un qui a en partie gagné sa vie en faisant des balles, en jouant de l'harmonica, en étant semi-professionnel. Comme j'avais appris l'harmonica en autodidacte et sans connaître le solfège, je jouais d'oreille,
oui.
Voilà. Il est certain que ça devient un peu limitatif. Quand même, parce qu'il y a des morceaux, si on n'a pas la partition, c'est quasi pas possible de les jouer. Enfin, voilà. C'est un frein, une barrière. Et quand je suis arrivé avec ce quintet, quand j'ai vu comment jouait ce Bernard, ça m'a un petit peu refroidi. J'ai pris une douche froide. Et je me suis dit, bon, alors, je vais prendre un autre instrument. Et là, maintenant, je vais travailler avec le solfège, apprendre avec la musique.
Avec la base.
Voilà. Et c'est là que j'ai commencé la guitare. C'était une période où on avait extrêmement peu de moyens financier, parce que mon père était mort et puis il y avait très peu de revenus. Et donc, j'avais émis le souhait auprès de mes frères, sœurs et ma mère d'avoir une guitare pour Noël.
Vous êtes beaucoup dans votre famille ?
Ils sont morts maintenant, j'avais un frère et une sœur. Je suis le plus petit de la famille, le plus jeune. Donc apparemment, il semblerait qu'ils étaient assez d'accord de se cotiser pour m'offrir cette guitare pour Noël. Mon ami d'enfance avait déjà reçu une guitare, alors de temps en temps... Avant moi, oui. Il avait une guitare rock, électrique, plate, extra plate, tout ça. Et puis, j'essayais de jouer dessus, mais comme on se voyait quand même assez rarement, enfin pas trop souvent, j'avais pris une planche de bois qui faisait à peu près la taille d'un manche de guitare, dessiné les cordes dessus au crayon, les barrettes, et je m'entraînais à passer les accords pour faire des accompagnements. Ce qui a amené à Noël, je reçois une guitare qui coûtait 2 francs 6 sous, c'était une des moins chères qu'on pouvait trouver sur le marché. Mais voilà, j'ai pris la guitare et j'ai commencé à chanter une chanson en m'accompagnant. Ça a été un peu la surprise pour tout le monde. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à pu trouver une place de travail. J'ai travaillé et mis de l'argent de côté pour, vers mes 18 ans, une année plus tard, m'acheter une guitare de chez Jacobacci, qui est maintenant une pièce de musée que j'ai toujours, mais qui est une pièce de musée. C'est une guitare jazz. C'est la réplique de la spéciale de celle de Barney Kessel, guitariste célèbre. Et Jacobacci faisait tellement bien ses copies de guitare Gibson, puisque c'était une guitare Gibson au départ, que Gibson lui a accordé le droit de fabriquer
les copies.
Bravo. Alors voilà. Alors moi j'ai l'une des premières, je ne sais pas quel numéro, mais en tout cas moins de 50, moins de 30 même. Hein. Donc vous j'ai une des premières que je possède encore. Ouais. Donc, hein, elle est toujours chez moi. J'avais 18 ans, donc 18, 45, 55, 63. Donc, ça a été ma première guitare vraiment sérieuse.
Vrai. Hein,
voilà. À partir de là, j'avais l'ambition de devenir musicien de studio. Donc, ce qu'on appelle les musiciens de studio, ce sont les musiciens qui accompagnent des grands artistes, des orchestres
professionnels.
Qu'on fait sur appel. Ils jouent tout. Classique, flamenco, jazz, ils jouent de tout. Je pratiquais, en moyenne, j'avais calculé une fois 4 heures par jour de musique. Voire des fois, il y a des jours plus, les week-ends, où je passais mes week-ends à faire de la musique. Ce qui m'a permis aussi d'acquérir un niveau d'avancer au niveau de la guitare. Et il s'est trouvé que j'ai eu un accident avec une mobylette où un automobiliste a ouvert sa porte devant moi et où je suis rentré dans la portière avec ma mobylette à 40.
En Genève ?
Non, à Paris. À Paris, parce que j'habitais à Paris à l'époque, je me suis cassé la main droite.
Dommage.
Mais comme je faisais énormément de musique, j'avais énormément de muscles dans cette main, il m'a fallu plus de 24 heures pour me rendre compte que la main était cassée, parce que je continuais à jouer de la guitare.
Encore.
Avec
la main cassée.
Voilà. Ah, je jouais là, entre autres, je me suis dit, mais si elle est cassée, je ne vais pas pouvoir jouer la romance anonyme, donc c'est la musique du film Les Jeux Interdits, hein, la romance anonyme, qui est un exactement. Hein, et puis au bout de plus de 24 heures, quand j'ai vu que la main devenait noire et complètement enflée, je me suis dit bon, on va aller chez un médecin, radio, et fracture de la main. Alors plâtre pendant 4 semaines.
Quatre semaines. Il fallait pas bouger.
Et
la main.
Je pouvais plus jouer pendant 4 semaines. C'était pas possible. Mais j'en ai profité pour repeindre toute la peinture des portes de mon appartement. Donc, j'arrivais à tenir un pinceau. Donc, j'ai repeint les portes. Ensuite, le parcours musical, après ça, il s'est prolongé. Et puis, je me suis dit, là, il y a eu un déclic en me disant, mais attends, tu veux devenir professionnel, il t'arrive un accident, tu n'as plus rien derrière. C'est plus possible. Tu n'as plus de moyens de gagner ta vie. Il faut s'en cycler. Alors du coup, j'ai continué la musique. Et puis, je suis venu en Suisse. J'ai commencé à travailler dans un métier qui n'a rien à voir, c'est au transport public, à conduire des autobus, parce que j'avais envie de voyager, et puis je me disais que c'était un bon moyen de voyager pour pas cher. d'avoir un permis de chauffeur d'autocar, et puis on...
même être payé pour ça.
Oui, même payé pour même ça, être... donc ça c'était le moyen de faire. Et là, j'ai fait deux rencontres à ce moment-là, au moment où je commençais mon apprentissage de chauffeur. La première des rencontres, ça a été celle de ma femme, que j'ai rencontrée à cette époque, en 1970. Et la deuxième des rencontres, ça a été l'orchestre russe d'Alexis Botkin, qui était à peu près le seul orchestre folklorique, c'était le seul en Suisse.
Il n'y avait pas d'autre à cette époque.
Il n'y avait pas d'autre. C'était un orchestre de à peu près de plus de 20 musiciens, 25 musiciens. Il m'a engagé, je suis entré dedans comme guitariste. Au bout d'une année, deux ans, ayant acquis tout ce qui me manquait de connaissances sur le folklore russe, l'accompagnement du folklore russe, il m'a poussé ou pris dans son petit ensemble, parce qu'il y avait les spectacles avec les 20 ou 25 musiciens plus 20 danseurs qui venaient de Lausanne, de Gilbert Martin, mais à côté de ça, il faisait des fois des petits concerts privés à 4 ou 5 musiciens chez les gens. Et je suis devenu en fait son guitariste attitré, et on a joué pour des tas de gens, y compris l'un...
Partout.
Partout. On a même joué pour Gorbatchev.
C'est vrai?
Oui.
Bravo.
Quand il est venu, il n'était plus président, mais il est venu en chercher des fonds pour la Croix Verte. La Croix Verte, le truc écologique, là, sa fondation écologique. Il a été reçu, invité par le Crédit Suisse. Et le Crédit Suisse nous a demandé de venir faire l'animation pendant leur repas.
Il avait quelques petites bouteilles de vodka, non?
Toujours. Toujours des Russes qui ne boivent pas de vodka, c'est qu'ils sont morts.
Ça n'existe pas.
Non, ça n'existe pas. Et puis c'est comme ça que, en fait, j'ai créé, en parallèle de l'orchestre de Botkin, j'ai créé mon propre groupe avec 4 personnes au départ. Puis après 5, 6, et le premier nom réel, le premier c'était SMAC, mais comme ça sonnait pas bien, le deuxième nom de mon groupe folklorique, c'était les Kamariki. Les Kamariki, c'est les moustiques, parce qu'on on faisait la musique comme des moustiques. Et avec ce groupe, nous on a enregistré 2 cassettes, musique à 7 à l'époque, puisque ça remonte aux années 80. Et puis, comme tous les groupes, y a toujours des pérégrinations, des tensions, tout ce qui s'ensuit. Et le groupe a un peu éclaté.
De petits pépins.
Voilà. Et j'ai rassemblé un certain nombre de musiciens et on est passé de Kamariki à Druzia. Druzia, ça veut dire les amis en russe, hein, le groupe des amis. Et avec ça, j'ai récupéré des anciens musiciens de l'orchestre de Botkin qui, lui, avait pris sa retraite et il avait donc arrêté ses prestations musicales. Oui. Hein. Il s'est passé un certain nombre d'années et de concerts. Et après, y a eu de nouveau des petits pépins, des tensions, tout ce qui s'ensuit. Et j'ai dit, maintenant, moi, j'arrête, je ne veux plus être dans ce groupe. Ce qui fait que tout a capoté en l'espace de 3 ou 4 mois, parce que dans un groupe, c'est comme dans un train, il faut une locomotive pour tirer les wagons.
Oui, je vois. Si vous permettez, est-ce que c'est plutôt les filles qui posent des problèmes dans un groupe comme ça, ou est-ce que c'est les hommes, à votre avis?
On avait assez peu d'hommes, on avait surtout des chanteuses et puis des musiciennes, donc il y avait assez peu d'hommes. Depuis là, après, je suis revenu quelques semaines après, vers les musiciens au cours d'une répétition, et je leur ai dit, écoutez, voilà, moi j'ai fait un papier, je recrée un groupe de musique qui va s'appeler Nastroïka, qui est l'actuel. Nastroïka, ça veut dire l'accordage. Merci. Alors, ceux qui veulent, qui acceptent que je sois le directeur de ce groupe...
Le chef,
ils me rejoignent. Ceux qui ne veulent pas, ils prennent la porte. À part une musicienne, 2 chanteuses, tout le monde s'est rassemblé.
Elles n'étaient pas d'accord.
Et maintenant, elles reviennent.
Ah, quand même. Elles sont de réfléchir.
Donc, je pense que sans fausse modestie, j'avais quand même un peu raison. Donc, hein, à prendre cette place de chef, parce que effectivement, parmi les musiciens, il y avait personne qui avait les épaules pour faire ce rôle de direction. J'ai toujours, dans ma vie, j'ai toujours été un insoumis, un meneur, un qui est pas dans le moule, qui se soumet pas aux lois, aux règles. Donc, hein, il a tout le temps fallu, même professionnellement, c'était pareil au cours de mes années professionnelles. Il y avait tout le temps des conflits avec mes supérieurs, et je suis comme quelqu'un que je viens de rencontrer et que j'aime beaucoup, qui s'appelle William Garcin, qui est un magnifique violoniste, qui m'a dit carrément, il m'a dit, mais moi j'ai jamais été dans le moule. J'ai jamais été dans le moule. D'ailleurs, je dis des choses que je ne devrais pas dire au moment où il ne faudrait pas les dire. Mais moi, je les dis. Et voilà. Et ça m'a porté préjudice. C'est pour ça que, et comme il dit, je suis pas, j'ai pas une carrière internationale, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il joue en France, en Suisse. Et voilà. Alors donc, c'est vrai que pour moi, la musique, c'est une grande partie de ma vie. Et quand je suis arrivé à la retraite, j'ai rencontré juste un peu avant, 2-3 ans avant, on a été à un concert pour écouter Michel Tirabosco, qui est un flûtiste de pan. Pour moi, actuellement, dans l'état où il joue maintenant, c'est certainement le meilleur du monde.
Numéro 1.
Il a largement dépassé Zamfir, dont il a été l'élève, d'ailleurs, qu'il a joué avec Marcel Cellier à l'âge de 17 ans. Ils sont partis faire une...
Maintenant, il avait pas dépassé son maître.
Il a dépassé largement son maître, largement. Et je l'ai entendu jouer, et j'ai une certaine attirance pour les instruments. Avant, hein, je voulais jouer de la trompette quand j'ai pris l'harmonica, mais les trompettes, c'était trop cher à l'époque, donc je pouvais pas. Hein, donc j'ai fait l'harmonica, et quand je suis arrivé à la retraite, j'ai demandé au père de Michel Tirabosco, qui fabriquait des flûtes de pan, s'il pouvait me fabriquer une flûte à l'envers des roumaines.
Pourquoi ?
Parce que les roumaines, elles ont les basses du côté droit, et avec l'harmonica, c'est le contraire. C'est comme le piano, on a les basses du côté gauche quand on joue. Et il m'a dit, je crois que j'en ai fait une fois, je vais essayer. Alors il m'a fabriqué une flûte de pan. J'ai commencé la flûte de pan pendant un peu plus d'un an. Ça a progressé. Après ça, je lui ai en ai commandé une deuxième plus grande avec des tubes plus supplémentaires pour descendre plus bas dans les graves. Et il m'a fabriqué une deuxième, puis après une troisième. Et j'ai pris des cours avec Michel Tirabosco. Donc avec la flûte lui-même. De pan. J'étais à la retraite, donc j'ai pris la retraite à 62 ans, hein, faut le dire quand même.
On apprend jusqu'à la mort,
voilà.
Si vous permettez.
Et j'ai pris des cours de flûte de pan avec Michel Tirabosco, et j'ai eu l'occasion de pratiquer cet instrument dans une église du XIIe siècle qui se trouve en France, au-dessus du lac de Serpenson. C'est l'abbaye de Boscodon. Parce qu'ils organisaient leur séminaire sur un week-end à cet endroit, et le dernier jour, on faisait un concert public avec ses élèves. Donc tous ses élèves faisaient un concert. Alors j'ai eu l'occasion de jouer avec lui dans cette église. Ça a été des moments merveilleux.
L'acoustique
est extraordinaire.
Énorme.
C'est un lieu absolument chargé d'énergie et d'histoire. Ça a été des moments extrêmement forts. De vie, et c'est ce que procure la musique, justement. La musique, elle vous transporte dans un autre univers, dans un autre monde. Et mon tout premier groupe de rock, nous étions trois musiciens, il y avait deux guitares et une batterie. Le batteur, que je vois toujours, qui est un ami, c'était complètement fou. Quand il se mettait à la batterie, il faisait deux ou trois mouvements de baguette, et c'est comme s'il était drogué. Il avait les yeux qui... Il passait dans une autre
ailleurs.
Planète. Il était ailleurs. Il était dans le monde de la musique. et le guitariste aussi, et puis je pense que pour moi c'était pareil. Donc, quand on est dans le monde de la musique, on est quelque part. C'est pour ça que tous les contacts que j'ai eus avec des musiciens, que ce soit en Russie ou dans d'autres pays, en France, Afrique du Nord, en France et ailleurs, les vrais musiciens, ça passe tout de suite. Parce que, justement, on se retrouve dans la planète musique. On se retrouve là à quelque chose, à un niveau qui n'est pas le niveau, là, les pieds sur terre. Là. On est ailleurs. Et là, il n'y a plus de barrières de langage, de religion ou de quoi qu'il s'en soit. On est dans la musique. J'ai eu ça, on a passé une soirée avec un joueur de oud. Donc c'est la guitare arabe, hein. Et il était venu, on était dans un restaurant, il était venu jouer pour nous à table. On a tout de suite sympathisé, on a essayé de parler un peu comme on pouvait entre le peu de français et d'anglais que je connais. Et je lui ai demandé son instrument, j'ai essayé de jouer sur son instrument, et là ça a été le déclic là. C'était parti, on s'est rejoints sur la planète musique les deux. Il me montrait ce qu'il fallait faire, je lui posais des questions. On était dans un autre univers.
Ouais. Est-ce que vous pensez que les sentiments sont plus importants que la technique?
Comment on va pouvoir dire ça? Je vais peut-être, parce que je suis un tireur à l'arc. Je tire à l'arc. Avec un arc médiéval, selon les traditions du XVe siècle. Je vais dire que la musique, en définitive, c'est un peu aussi comme le tir à l'arc, c'est comme toutes les choses qui incluent la sensibilité et la technique.
Donc, les deux.
Les deux. Et il faut faire un mariage entre les deux.
Au même niveau, 50-50.
C'est 50-50.
C'est pas la mathématique, mais...
C'est pas la mathématique, non. Je pense qu'en musique... Il y a 30 à 40% de technique, ça c'est l'entraînement. C'est vraiment la technique pour maîtriser l'instrument. Il y a 20% de la sensibilité personnelle qu'on va amener. Comme ça, mais la sensibilité personnelle par rapport à ce qui est écrit sur une partition. Donc, pour essayer de rattraper comment jouait l'artiste, enfin comment il a composé morceau. Donc ça fait 40 et 20, ça fait 60. Et 40 autres pourcents, c'est l'âme de l'artiste qui est là. Hein? C'est comme ça. Moi, j'ai connu une mandoliniste de l'orchestre de la Suisse romande qui était venue jouer avec Botkin. Elle jouait de la dombra, en fait, de la mandoline russe, quoi. Et elle jouait ses morceaux en discutant lessive avec sa copine à côté. Alors, au niveau technique, elle allait vite, c'était une virtuose. Et quand Botkin m'a demandé, mais qu'est-ce que tu penses d'elle? Je lui ai dit, c'est une machine à chier des notes. Elle n'a pas d'âme, elle n'a pas de sensibilité, elle a... Voilà.
Machine,
c'est une machine à faire de la musique. Un piano mécanique. Un piano mécanique, ça fait de la musique. Mais ça ne sera jamais un Zifra ou un...
Elle ne va pas vous faire pleurer.
Non. Et ça, c'est important. On a eu justement une professeure de musique qui est venue quand elle était à la retraite jouer dans notre groupe, Liliane Romano, qui est venue, elle est morte maintenant. C'était absolument extraordinaire. La façon dont elle jouait du violon... Il y avait une sensibilité, il y avait un toucher. Bon, il y avait la technique, bien sûr, elle était prof, mais il y avait une sensibilité, parce que j'ai connu des profs qui sont des machines à chier des notes. Il y en a aussi. Il y en a aussi, ça existe. Et là, elle avait une sensibilité, et en plus, pour nous, ça a été un bonus énorme, non seulement sur le plan musical, mais sur le plan affectif avec la personne. Parce que c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a rêvé de faire de la musique russe. Et son mari, classique, 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 et on ne sort pas de classique. Alors, ça a été une période de bonheur intense pour elle et une grande joie pour nous, un partage de joie avec cette personne. Parce que la musique, c'est aussi le partage. C'est aussi ça qui se passe.
Entre les personnes, entre les musiciens.
Oui. Ça se partage, la musique. On ne fait pas de la musique seulement pour soi, on fait de la musique par rapport à tout le monde, d'autant plus dans l'accompagnement. Parce que l'accompagnement, le rôle numéro 2, c'est celui que je préfère, moi, le rôle numéro 2, c'est de mettre le numéro 1 en valeur. Hein, c'est ça. On a le soliste, et derrière, si on a un mauvais accompagnateur, ça ira moins bien au solo. Si on a un bon accompagnateur, le soliste, il va monter les marches, il va monter l'escalier.
Toujours.
Hein? Donc ça, c'est quelque chose qui est très important au niveau de l'accompagnement. Et c'est pour ça que maintenant, le dernier instrument que j'essaye de maîtriser, c'est la balalaïka contrebasse, parce que c'est de nouveau une base d'accompagnement qui va mettre non pas seulement le soliste en valeur, mais tout l'orchestre. Parce que la contrebasse, c'est la plaque
rythmique
de béton sur laquelle on va construire tout le chalet.
Le monument.
Le monument. Donc on va, tout l'orchestre s'appuie en fait sur la basse.
C'est sur un chef aussi.
Ah, bon,
comme vous.
Non, mais moi je suis pas un chef, moi je suis juste une locomotive pour tirer le train.
Mais si.
Pour dire aux musiciens, écoute, là tu ralentis un peu, ou tu joues un peu plus vite, ou tu joues moins fort ou plus fort. Donc travailler au niveau des nuances, et puis travailler au niveau des orchestrations.
Est-ce que c'est une musique assez spécifique?
La musique, c'est une musique traditionnelle. Voilà. Traditionnel d'un pays et d'une culture, tout comme le folklore breton ou bien le tango, hein, qui sont des musiques que moi j'aime beaucoup, parce que en fait le folklore, c'est une expression populaire des sentiments. Hein, c'est ça le folklore. Alors pour arriver à faire comprendre cette expression des sentiments, quand on vient d'un pays comme la Bolivie ou le Chili ou l'Argentine, ou bien la Russie ou la Bretagne, hein, ou le centre de la France avec les bourrées, avec l'Auvergne, il faut arriver à trouver quelque chose qui exprime et soit perçu par les gens qui ne le connaissent pas. J'ai une chance formidable d'avoir eu des parents russes et d'avoir vécu dans un pays francophone, donc en France, et d'avoir une culture, une double culture. Ce qui me permet d'essayer de faire des orchestrations des morceaux traditionnels russes de façon à ce qu'elles soient plus facilement perceptibles par des gens européens.
Occidental.
Qui n'ont pas cette culture. Donc, on va essayer de les orchestrer de façon à ce qu'ils ne soient pas trop longs, qu'ils ne soient pas trop répétitifs. Parce que souvent, dans le folklore russe, il y a des chansons, il y a 20 couplets, puis c'est 20 fois la même chose. Donc, ça,
la fin du temps.
Ça, ça ne va pas. Alors, on arrive à faire des orchestrations. J'essaie de faire des orchestrations. Des fois, la grande désapprobation d'un ou deux de mes musiciens, de faire des orchestrations avec des changements de ton, par exemple, où on va faire une boucle, on va partir sur un ton, sur un ré, passer sur un si mineur, passer sur un mi, revenir sur un ré. Donc, on fait 4 couplets ou 8 couplets, mais à chaque fois, on change. Hein, et comme ça, même si les gens ne comprennent pas les paroles, c'est pas monotone, ça change à chaque fois. Et puis d'introduire également dedans des tonalités, sans aller jusqu'aux tonalités jazzy, mais d'introduire un peu des accords qui ne soient pas aussi fondamentaux et basiques que ce qu'on retrouve dans les folklores du monde entier. Parce que le folklore du monde entier, c'est souvent des musiciens qui ne connaissent pas la musique, ils jouent comme ça, en autodidacte, hein, comme moi, parce que je suis un autodidacte aussi, et ils sont très basiques dans leur musique. Alors que moi, j'essaye de, justement d'apporter des harmonies qui sont un petit peu plus recherchées, un petit peu plus fouillées hein, dedans, par rapport, au, par rapport
aux autres.
Aux morceaux.
Oui. Oui. Hein.
Ce qui amène aussi une sonorité qui est plus perçue, mieux perçue par les gens d'Europe par rapport à la Russie. Et c'est drôle parce qu'on a eu l'occasion de voyager en Russie plusieurs fois et on a fait des spectacles là-bas, on a fait de la musique.
Et, est-ce que vous avez des amis là-bas?
Oui, on a des connaissances, on a fait des connaissances. D'ailleurs, une de nos chanteuses vient du centre de la Russie, de Tcheboksary, c'est à 600 km de Moscou, au centre, en direction de l'Oural. J'ai une amie qui vient de Doubna, donc la ville de Doubna, ça a été la première ville où ils ont fait l'accélérateur à particules au monde,
oui.
Qu'ils ont arrêté quand le CERN s'est construit, parce que le CERN était plus performant. Alors donc, on a visité un peu toutes ces villes, on a eu l'occasion d'aller là-bas, on a eu l'occasion de faire des concerts en Russie comme ça, tout à fait improvisé, parce qu'on était avec notre, une grande partie de notre orchestre, donc on a eu des musiciens, on a fait des concerts. Et ces concerts qu'on a faits, même les Russes étaient étonnés.
Même les Russes
par l'orchestration.
Ouais.
Donc,
impressionné.
Impressionné. Ils étaient étonnés, ils étaient impressionnés. Ils ont dit, mais vous avez fait des beaux arrangements sur vos morceaux. Ils les connaissent, ils les chantaient avec nous. Hein. Donc,
bravo.
Voilà. Et ça, c'est pas moi qui en suis fier, c'est un peu un travail collectif. Hein. Parce que c'est comme je dis, bon. Et il faut un chef dans un groupe, mais pour que le chef il puisse fonctionner correctement, il faut que tout le groupe l'entoure. Donc ça devient un travail collectif complet. Et chacun émet des avis dans notre groupe de musique, chacun émet des avis. Et après, ces avis, ils se passent sur le tamis, où ils sont acceptés ou ils ne sont pas acceptés, on regarde ce qui se passe. Il y a des très très bonnes idées, il y a des suggestions de musiciens qui ont été adoptées d'entrée de part, mais je ne suis pas un dictateur, là. Simplement, je gère un peu le groupe, c'est tout.
Il faut diriger.
Voilà, il faut diriger un peu. Et puis, il faut dire aux gens, bon, écoutez, il y a une répétition demain, je veux tout le monde.
Bien sûr.
C'est tout, c'est pas compliqué, quoi. Hein. Simplement, ça demande de l'énergie, un peu. Et puis, il faut avoir un peu la mentalité de chef, la mentalité de direction. J'ai ma belle-fille qui est chef d'orchestre d'une fanfare dans le canton de Vaud. Mais c'est pareil, on se comprend très bien parce qu'on a le même caractère.
Elle est un chef aussi comme vous. Entolé, voilà. Deux chefs.
Hein? Et va. Puis elle a dirigé la lyre de Chêne Bougerie et elle a réussi à faire passer tous ses musiciens, enfin toute son orchestre, cette harmonie, à un niveau supérieur au cours d'un concours fédéral. Alors, ça veut dire que quand on a quelque part un bon meneur, ça.
Il faut la féliciter.
Voilà.
Il n'y a pas d'autre chose.
Alors, moi, je bombe pas le torse, hein, du tout. Hein. Simplement, voilà. Je pense que la musique, avec l'âge qui vient, il y aura plus d'instruments avant ou comme la contrebasse qui est moins exigeante au niveau des mains que la guitare parce que il y a quand même l'âge qui vient et puis les mains se raidissent et je vais pas dire du rhumatisme mais enfin les symptômes.
Est-ce qu'on peut dire que la musique est jusqu'à la mort?
Je pense que oui parce que quand on enterre quelqu'un on fait de la musique aussi. Pour lui.
Je vous remercie beaucoup, monsieur Léopoldi. À bientôt, j'espère.